Je rappelle que nous avons consacré plusieurs de nos études au sujet délicat, difficile, du chrétien et de la guerre, et que le vœu a été formulé, c'était notre sœur Nicole Berger qui l'avait formulé, que nous parlions aussi de la paix et de l'action du chrétien en faveur de la paix. Ce sera le sujet aujourd'hui. Je l'intitule, le sujet d'aujourd'hui, artisan de paix, mais il est peut-être plus aisément compréhensible de dire que nous allons chercher comment œuvrer pour la paix, nous qui sommes les disciples de Jésus. C'est pourquoi tout à l'heure j'ai donné comme thème de notre étude « Comment œuvrer pour la paix ». Je ne lirai en introduction que la septième béatitude, mais d'autres textes ensuite retiendront notre attention. La septième béatitude s'énonce selon l'évangile de Matthieu au chapitre 5, verset 9. « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Et l'on peut traduire le mot unique qui est dans l'original de l'évangile, « ceux qui procurent la paix, les artisans de paix, les ouvriers de paix », et on pourrait encore sans doute chercher d'autres traductions. Nous allons essayer de réfléchir à ce que signifie cette béatitude, mais remettons auparavant notre heure de travail ensemble et d'échange au Seigneur. Est-ce que notre frère M. Dehaut pourrait nous conduire dans la prière ? Amen. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu, dit Jésus. Cette promesse est l'une des plus belles de toute la série des promesses magnifiques des béatitudes. Elle suggère, me semble-t-il, qu'il y a une analogie privilégiée entre l'activité de ceux qui procurent la paix autour d'eux et le caractère même du Dieu que nous servons et qui veut nous rendre semblables à lui en tant que nous sommes ses enfants. Il est appelé le Dieu de la paix. Le Dieu de la paix, c'est un titre qui revient plusieurs fois, et en particulier dans l'Épître aux Romains, au chapitre 15, au verset 33. Et le Fils, à l'image duquel nous sommes les fils adoptifs, les fils par grâce, le Fils de Dieu est suprêmement celui qui a opéré la paix. L'épître de l'apôtre Paul aux Colossiens, au premier chapitre, dit qu'il a fait la paix par le sang de sa croix, que Dieu a fait par le sang de la croix du Christ la paix pour tous les êtres de l'univers, qu'il a pacifié l'ensemble du cosmos par le sang de la croix du Seigneur Jésus. Ainsi, disciple du Seigneur Jésus, enfant du Père Céleste qui est le Dieu de la paix, il nous revient de nous préoccuper de la façon de susciter la paix. Comment œuvrer pour la paix? Je répondrai, pour résumer, non pas tout l'enseignement biblique, il y a forcément des éléments qui resteront en dehors, nous n'avons qu'une heure, mais je répondrai en résumant ce qui me paraît particulièrement important dans l'Écriture sur le sujet maintenant défini, en trois grands points, mais j'indique d'abord le double présupposé de tout le traitement qui va suivre. Nous présupposons, parce que la Bible l'enseigne en d'autres endroits, que c'est la doctrine révélée par le Seigneur, que si la paix est perdue, c'est à cause du péché, que c'est la rupture des relations entre le Créateur et la créature, la désobéissance qui commence dès le troisième chapitre de la Bible, qui est la cause de tout ce qui entame, détruit, pervertit la paix entre les humains. C'est là le point de vue original que la révélation nous permet d'avoir sur le sujet d'emblée. Nous ne pensons pas qu'il s'agisse simplement d'un manque d'éducation, qu'il s'agisse simplement de problèmes économiques, qu'il s'agit de démographie. Nous savons, parce que Dieu nous l'a dit, que ce qui est la racine première de la perte de la paix, c'est ce que la Bible appelle le péché. Et puis le deuxième élément présupposé qu'il nous faut garder en mémoire, c'est que le rétablissement de la paix restera imparfait tant que Jésus-Christ ne sera pas venu en personne, dans sa gloire, visiblement, établir son règne de paix. Nous avons à œuvrer pour la paix, nous allons le voir. Mais ne nous faisons pas d'illusions, il nous faut attendre, et c'est pourquoi nous attendons, avec une sainte impatience et en même temps de la patience. C'est ce que nous enjoint le Nouveau Testament, le jour du retour du Seigneur, parce que c'est là que la paix sera vraiment une paix intégrale qu'elle pourra englober et pénétrer l'ensemble de la création. Et jusqu'à ce moment-là, sachons, le Seigneur l'a prédit, qu'il y aura bien des choses contraires à la paix. Alors ces deux points assurés, je les considère en quelque sorte comme des acquis pour la progression que nous devons faire ensemble. Je suggère trois points principaux, je vais les annoncer, et puis ensuite je vais les développer, sur la manière dont nous pouvons être artisans de paix. Premièrement, en nous abstenant de fomenter des guerres. Deuxièmement, en soutenant les institutions qui répriment le mal. Et troisièmement, en nous engageant dans les entreprises de médiation ou de réconciliation. Voilà les trois grands points qui laisse forcément de côté quelques éléments de l'ensemble biblique, mais qui, je crois, représentent les lignes de force de ce que nous trouvons dans l'Écriture. Alors d'abord, en nous abstenant de fomenter des guerres. Dans mes notes, j'ai mis « guerre » entre guillemets, parce que je prends le mot dans le sens le plus large, pas seulement les conflits qui opposent des nations, avec des armées constituées, mais toutes les querelles, tout ce qui est contraire à la paix. La vieille traduction latine de la Bible, la Vulgate, avait traduit la septième béatitude, « Heureux les pacifiques », le mot latin correspondant à « pacifique », ceux qui respectent eux-mêmes les voies de la paix dans leur comportement. Je ne pense pas qu'on puisse considérer que cette traduction soit suffisante pour le texte de la septième béatitude. Il y a un autre mot qui se traduit pacifique, qui est employé dans l'épître de Jacques, par exemple, au chapitre 3, et nous allons lire dans quelques instants ces versets, et le terme que Jésus emploie selon l'évangile de Matthieu est bien plus fort. Il ne s'agit pas seulement d'être pacifique, mais de procurer la paix. Cependant, je commence par cette première dimension en disant, en fond, c'est le minimum. Pour être ouvrier de paix, il faut d'abord soi-même être pacifique. Il ne faut pas contribuer à tout ce qui détruit la paix, qui alimente les querelles. C'est ce minimum que me semble évoquer l'épître de Jacques. Jacques, sans doute, un frère du Seigneur selon la chair, hein, comme vous savez. Jacques qui dit au chapitre 3, dans les versets 13 et suivants, c'est un beau texte. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre par sa bonne conduite ses œuvres empreintes de douceur et de sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur une jalousie amère et de la rivalité, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est pas celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, démoniaque. Car là où il y a jalousie et rivalité, il y a du désordre et toute espèce de pratique mauvaise. La sagesse d'en haut est d'abord pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, sans partialité, sans hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par les artisans de paix. Ce texte me semble bien décrire quel est le caractère pacifique qui doit se retrouver chez les enfants de Dieu. Il nous trace les lignes dominantes de cette première possibilité, de ce premier moyen que nous avons de susciter la paix, être en paix nous-mêmes, et pour autant que nous le pouvons, être en paix avec les autres. Dans le passage de l'épître de Jacques, mais bien souvent ailleurs aussi, le Nouveau Testament prône la douceur, la bienveillance, l'évitement des querelles, la disposition à pardonner, les égards réciproques, qui font beaucoup pour la paix. Au chapitre 12, un autre passage important, au chapitre 12 de l'épître aux Romains, je vous rappelle ce que dit le texte de la Bible. Le texte nous dit, ne rendez à personne, au verset 17, le mal pour le mal, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes, s'il est possible, pour autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Et puis la suite est toujours dans le même sujet, ne vous vengez pas vous-même, bien-aimé, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit, à moi la vengeance, c'est moi qui rétribuerai, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Sans doute, faut-il prendre cette image dans le sens d'un sentiment de honte, une pression spirituelle sur lui qui le fera changer d'attitude. Ces charbons ardents. Ne sois pas vaincu par le mal, mais vainqueur du mal par le bien. Renoncement à la vengeance privée, souligne le texte. Ne vous vengez pas vous-même. Il y avait déjà un proverbe, proverbe 20-22, qui avait souligné la même chose. C'est la façon de casser l'un des ressorts principaux de la guerre parmi les humains, ce qu'on a appelé l'escalade mimétique. C'est surtout René Girard qui a développé cela, mais nous en sommes tous familiers. Il suffit de voir comment une dispute entre automobilistes dégénère. Hein. On s'est fait une queue de poisson, etc. Les deux s'arrêtent, ça commence par des mots, ensuite il y a l'un qui tire un couteau, l'autre qui sort un pistolet de sa poche, et puis l'autre va chercher un fusil à pompe, et puis on voit comment l'escalade de l'hostilité fait que chacun imite l'autre un cran de plus. Et ça c'est typique des guerres aussi entre les nations, typiques des mécanismes qui entraînent à la guerre les êtres humains qui détruisent la paix. Jésus a bien dit, celui qui frappera par l'épée périra par l'épée. C'est un cercle en quelque sorte, une spirale de ces attaques qui détruisent la paix. Donc, je dirais, c'est clair, en nous abstenant de donner dans ce sens, en nous abstenant de fomenter nous-mêmes des querelles, nous œuvrerons pour la paix. Mais avant de passer au deuxième point, il y a quand même deux choses plus délicates à expliquer dont il faut que je parle. D'abord, je dois attirer l'attention sur les formes sournoises de comportement hostile. Ceux qui, comme je viens de le décrire, sortent leur pistolet ou, après s'être insultés, c'est très clair qu'ils cherchent querelle et qu'ils vont vers une guerre. Mais ce n'est pas la seule façon de susciter la guerre. Il est possible, avec un petit sourire angélique, de pousser à force de coups d'épingle, etc., l'autre à la colère qui déborde. Et en fait, on a soi-même suscité la guerre sans en avoir eu l'air. Il y a des formes très très diverses en fait, sournoises, cachées d'hostilité. C'est ce qui implique d'ailleurs que lorsqu'on a à juger soi-même d'une guerre dans laquelle on n'est pas impliqué, mais on s'intéresse à l'un ou l'autre, il faut se retenir de juger trop vite, car les apparences peuvent être très, très, très trompeuse. Il y a certaines façons, en apparence très pacifiques, de pousser l'autre à la guerre. Donc, ça, c'est une première remarque qui doit être faite. La deuxième correspond à une complexité encore plus grande. Il y a une agressivité saine. Je crois que nous avons à reconnaître que le mot d'agressivité ne doit pas, pour nous, être purement et simplement synonyme de haine, de démarche qui conduit à la guerre et qui serait donc pour un chrétien à réprouver. Il y a une agressivité qui appartient à la bonne constitution de l'être humain tel que Dieu l'a voulu. Et je cite simplement trois éléments de preuve pour ce que j'avance en disant cela, qui seraient, je crois, corroborés hein, par des spécialistes d'anthropologie ou de psychologie. Mais il y a le fait que, dans le jeu en particulier, nous exprimons de l'agressivité. Le jeu, qui est quand même une des formes de l'existence humaine les plus importantes, le jeu implique que l'on se crée de l'adversité pour le plaisir de vaincre cette adversité. Et puis c'est pas méchant, c'est justement du jeu. Dans le jeu s'exprime la présence d'une agressivité qui peut être fondamentalement saine. Il y a le témoignage d'un livre qui m'a beaucoup impressionné. Le livre des Proverbes lui-même nous encourage à aller tirer le son des animaux. Le grand fondateur de l'observation des mœurs des animaux, le savant allemand Konrad Lorenz, dans son grand survol de l'agressivité, c'est un livre passionnant à lire, c'est lui, vous savez, qui parlait avec les oies, il est devenu très très célèbre. Il montre dans ce livre que dans les espèces animales, il faut qu'il y ait agressivité pour qu'il y ait amour, ce qu'on peut appeler amour dans une espèce animale. L'attachement, la fidélité, certains éléments de compassion, ça va ensemble. Une espèce animale dépourvue d'agressivité ne peut pas connaître quelque chose qui se rapprocherait de l'amour. Bon, je pense que c'est un témoignage qui mérite d'être au moins reçu pour réflexion. Et puis, il y a le témoignage biblique. L'humanité, au commencement, est invité à soumettre la terre. Il faut une certaine agressivité pour percer les rochers, pour même bêcher le sol, pour cette agressivité au sens d'une énergie qui se dirige vers ce qui est un obstacle, mais sans que ce soit pénible ou tragique. Et puis suprêmement, alors, ça c'est l'élément clé de la preuve biblique, notre modèle, le Seigneur Jésus, le Fils de Dieu qui a opéré la paix, le Seigneur qui a pu dire « Je suis doux et humble de cœur », vous avez vu comment il a montré aussi de l'agressivité. Ce n'est pas du sirop douceâtre hein, qui toujours coule de ses lèvres. Il dénonce les scribes pharisiens. Et un jour, l'indignation le saisit, le zèle de la maison de Dieu le dévore, et il y va jusqu'à renverser les tables des changeurs, jusqu'à chasser toute cette ménagerie qu'il y a dans le temple de son père. Jésus a montré, en ces circonstances, une agressivité que nous devons reconnaître sainte, non seulement saine, mais sainte. Donc, ne confondons pas. Il y a une agressivité. Et c'est pas la même chose que la haine, que ce qui attise les querelles dont nous parlons. Et le problème, bien sûr, c'est que dans notre situation de péché qui baigne le monde, dans la faiblesse qui reste encore la nôtre, même quand nous avons reçu la grâce de Dieu, très souvent l'agressivité tourne mal. L'agressivité sert aux ambitions égoïstes, sert à la domination des autres, sert à la guerre. Et du coup, il y a pour chacun de nous, si nous devons nous abstenir de fomenter des querelles, si nous voulons être des ouvriers de paix en étant pacifiques, pour commencer, il y a tout un problème de gestion de notre propre agressivité, de lucidité sur nous-mêmes. Au minimum, sachons que c'est peut-être plus compliqué qu'il ne nous apparaît d'emblée quand nous avons l'impression d'agir pour une raison très déterminée. Attention, essayons de nous interroger au moins un petit peu. Et l'épître de Jacques, là encore, je vous ai dit que nous lirions quelques passages, continue d'une manière qui est aussi très, très instructive pour nous. Après les versets que nous avons lus, Jacques enchaîne. D'où viennent les luttes? D'où viennent les querelles parmi vous? Sinon de vos passions qui guerroient dans vos membres. Il y a une guerre interne, une guerre dans l'être humain avec ses passions. Le mot veut dire d'abord les plaisirs et puis à partir de là tous les désirs qui vont dans tous les sens. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux sans rien pouvoir obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous ne demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal afin de tout dépenser pour vos passions. Voilà un diagnostic de Jacques qui ne paraît pas très optimiste, hein, mais probablement très, très réaliste parce qu'il n'y a pas de pacification intérieure d'harmonie et de maîtrise des désirs, alors il y a guerre au-dedans, guerre au-dehors, et souvent même sans qu'on se rende très bien compte de ce qui se passe. On dit « Ah, oh, c'était plus fort que moi », mais on n'analyse pas. Et il y a là pour nous un avertissement, je ne dis pas que ce soit facile à régler, on a souvent besoin de l'aide des frères et sœurs pour cela, mais déjà prenons-en conscience. Donc premier point, abstenons-nous de fomenter les querelles, et cela par l'établissement d'une paix intérieure saine en nous-mêmes. Deuxièmement, en soutenant les institutions qui répriment le mal. De nouveau, je vous demande de renoncer à tout angélisme. Je ne flatte pas la sensibilité contemporaine en commençant par ce point, les institutions qui répriment le mal. Celle que Dieu a instituée pour un monde pécheur afin de contenir l'agressivité dévoyée, l'agressivité tournée vers le mal qui règne parmi les êtres humains. Il a institué des ministres de son jugement, de sa colère au sens biblique du mot, qui veut dire sa réaction contre le mal. Il a institué des ministres de la colère que sont les magistrats, la police. C'est ce que l'apôtre Paul dit au chapitre 13 de l'épître aux Romains. Là encore, dans la suite du passage que nous avons lu, Paul a dit « Laissez agir la colère de Dieu ». Et il appelle ensuite celui qui est en autorité « ministre de la colère de Dieu ». Donc, il y a un lien là. Dieu, dans sa sagesse, a institué pour le temps présent de tels serviteurs qui répriment le mal. Mais ça ne nous plaît pas tellement, c'est vrai. Notre sensibilité est un peu prise là, à rebrousse-poil. C'est dur de penser qu'il faut cela. Et alors nous rêvons de tout de suite de l'établissement du règne de paix. Mais c'est mélanger les époques du plan de Dieu. C'est vouloir aller plus vite que la musique du Seigneur. Le règne de paix, c'est pour quand il reviendra. Et nous avons à soutenir ces institutions. Et nous sommes en cela, non seulement dans une position qui contredit notre sensibilité spontanée, sans doute, mais aussi dans une position qui contredit les choix idéologiques de beaucoup autour de nous. Il y a parmi nos élites, c'est, me semble-t-il, assez évident, une hostilité à ces institutions, une sympathie pour les malfaiteurs, qui peut s'observer très clairement. Je ne dis pas que ce soit universel parmi ceux qui détiennent le pouvoir, parmi ceux qui sont au levier de commande de la vie politique, culturelle, etc. Mais c'est très présent, et souvent avec une hostilité tout à fait consciente et délibérée contre la tradition judéo-chrétienne, accusée d'être aliénante et asservissante. Et je signale un usage un peu pervers et jouant d'équivoque sur la notion de violence. On va dénoncer la violence, mais on dira la violence est de tous les côtés. Et on parlera de la violence de la police comme de la violence des malfaiteurs. Je crois que c'est un usage assez pervers de cette notion même. Si on met de côté le sens du mot violence sans aucune connotation morale, où il ne s'agit que de la force du vent, par exemple, si on prend l'usage du mot violence avec une connotation morale, je crois qu'il faut dire attention, ne pas confondre avec la force. L'usage de la force publique n'est pas de la violence. Ou alors on mélange tout, quoi. On n'a pas les concepts appropriés. Il peut y avoir des violences policières lorsque les policiers contreviennent aux règles mêmes de leur action et font ce qui est illégal. Mais l'usage de la force n'est pas en lui-même de la violence. Ne pas confondre. Et on peut raffiner à propos de ce concept de violence, moi j'ai trouvé ce raffinement très très utile. La violence, c'est pas simplement ce qui est illégitime. Alors on appellera violence tout usage de la force avec lequel on n'est pas d'accord. Ce serait là aussi un petit peu trop facile. La définition qui me paraît la plus utile pour penser clair sur le sujet, c'est que la violence, c'est tout usage de la force auquel manque la sanction d'une loi édictée, du droit positif. Si c'est selon la loi, alors ce n'est pas de la violence. Si c'est contraire à la loi, il y a deux cas. Ce peut être contraire à la justice, contraire à l'éthique. Alors là, c'est la violence qu'il faut condamner. Il peut y avoir des cas de violence légitime, qui est contraire à la loi, parce que la loi elle-même est inique. Ça existe. La loi telle qu'elle était dictée. Alors là, on pourra parler de violence, mais de violence avec un caractère légitime. Si on utilise ainsi les concepts, je crois que cela aide à penser sans ambiguïté. À propos de ce rôle des institutions, je propose, ce n'est pas du tout quelque chose qui me soit particulier, hein, mais tout le monde ne sera pas forcément d'accord quand même, je propose de distinguer entre les relations interpersonnelles et les relations dites sociales. Dans le monde pécheur qui est le nôtre, et Dieu, le Seigneur ne nous retire pas du monde, il veut que sans être du monde, quant à l'esprit, nous soyons toujours dans le monde, dans ce monde, nos relations sont de divers types. Il y a des relations où nous sommes juste, en quelque sorte, de cœur à cœur, de personne à personne. Et puis il y a des relations qui sont liées à tout le réseau des relations de tous les humains ou de tous les citoyens, des relations qui sont lestées en quelque sorte du poids de toutes les institutions, de toutes les structures de la vie collective. Un philosophe a suggéré d'appeler les premières des relations courtes et les autres des relations longues. Nous sommes en relation avec les autres, non seulement dans le face-à-face personnel où on est simplement les deux, mais aussi comme part de ce grand ensemble. Il y a le prochain comme prochain et comme socius, membre de la même société, a dit le même auteur. Et il me semble pouvoir tirer du Nouveau Testament qu'il y a une bipolarité, pas une séparation absolue, parce qu'il y a un dégradé, si vous voulez, entre nos relations en tant qu'elles sont interpersonnelles et nos relations en tant qu'elles sont liées à ces structures de la vie sociale. En tant qu'elles sont interpersonnelles, les paroles du sermon sur la montagne s'appliquent telles quelles. Ne pas résister aux méchants, c'est-à-dire ne pas riposter, comme l'explique bien une note dans la tobe. Ne pas rendre le mal pour le mal. Tendre la joue gauche si on a été frappé sur la joue droite. pardonné 77 fois 7 fois, comme dira Jésus dans un autre passage à celui qui demande pardon 77 fois 7 fois dans la journée. Mais on ne peut pas appliquer la même chose aux relations intersociales. Et si un chrétien est juge, par exemple, il doit appliquer la loi et punir le méchant. Ce n'est pas son intérêt personnel, ce n'est pas juste sa relation à lui qui est en jeu, mais c'est précisément tout cet ordre qui comporte des institutions dans le monde pécheur. Alors, aux deux extrêmes, c'est assez clair, la situation du chrétien qui est un juge d'une part, et puis du chrétien juste en son nom personnel d'autre part. Hein. La difficulté, c'est tout l'entre-deux. Parce que je ne pense pas qu'on puisse faire une séparation, un fossé parfaitement net. Nous sommes rassemblés même en église comme des frères et sœurs, mais nous sommes aussi une association cultuelle, nous obéissons aussi à la loi française, nous avons des contraintes, et certaines choses nous imposent de ne pas simplement appliquer une règle d'amour fraternel. Nous sommes impliqués de ces deux façons et il y a une bipolarité qui complique les choses. Je pense qu'on peut dire aussi qu'il y a une spécificité des relations internationales et peut-être maintenant, parce que la nation n'est pas la seule forme de communauté au contour bien défini qui existe, des communautés ethniques, même au sein d'une même nation. Il y a des groupements qui ont une identité propre et parfois des institutions propres d'ailleurs aussi. Et cela crée aussi une situation spécifique. Les cas de forfaiture du côté des pouvoirs institués sont aussi à mentionner parce qu'il faut être réaliste. Et ils sont particulièrement difficiles à traiter. Dieu a établi les magistrats pour punir les malfaiteurs. C'est dans le monde présent nécessaire, bon. Et nous devons les soutenir dans cette tâche. Bon. Oui, mais quand les magistrats eux-mêmes sont des gredins, lorsque la loi est inique, comme je l'ai dit, et comme je l'ai évoqué en tant que possibilité il y a quelques instants, que faire? Alors là aussi, je suggère que nous pouvons distinguer trois niveaux. Il y a l'imperfection ordinaire, humaine, de ceux qui sont en autorité. Forcément, ils prennent des décisions qui ne sont pas tout à fait justes. Forcément, sinon nous serions déjà dans le royaume de Dieu. Et je ne pense pas qu'un chrétien puisse dire « Ah, puisque là, ce n'est pas juste, que cet impôt est trop fort, par exemple, alors je ne vais pas obéir. Parce que ma norme, c'est la justice de Dieu, je trouve que cet impôt n'est pas selon la justice de Dieu, donc je ne vais pas payer. » Je pense que lorsqu'il s'agit de cette imperfection, en quelque sorte, ordinaire, humaine, dans ce monde, l'enseignement de la Bible, c'est de supporter. Supporter même cette injustice. Mais il y a un deuxième niveau, celui d'une injustice bien plus grave. Une injustice qui lèse jusqu'à l'essentiel ce que nous devons à Dieu et au prochain aussi, parce que le prochain est en image de Dieu, on ne peut pas séparer. Alors là, je pense qu'il y a des cas où il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Où il y a objection de conscience, où il y a désobéissance civile par obéissance à Dieu. Que lorsque ce n'est plus une simple imperfection, mais vraiment quelque chose de grave, comme l'interdiction de témoigner de Christ. C'est vraiment quelque chose qui atteint au plus profond les enjeux de la vie humaine. Alors là, il faut désobéir à ces autorités instituées elles-mêmes, parce que par les décisions qu'elles promulguent, d'interdiction par exemple, elles bafouent leur vocation selon Dieu. Et puis je pense qu'il y a un troisième niveau encore, et là c'est le point qui sera sans doute le plus discutable. Hein. Tous les chrétiens évangéliques n'ont pas la même option. Mais c'est le cas de la démonisation ou quasi-démonisation des pouvoirs en place. Je pense que parfois il ne s'agit même plus seulement de décisions très graves qu'elles ont prises, mais qui laissent encore légitime leur autorité ailleurs, mais de leur être même, de leur façon de détenir le pouvoir qui fait qu'on ne peut plus reconnaître en elles les autorités instituées par Dieu. Alors là, c'est très délicat, vous vous en doutez. Dieu a suscité un Jéhu pour abattre une maison royale d'Israël entièrement pervertie dans l'Ancien Testament. C'est peut-être d'abord une question de vocation individuelle, lorsque le cas du tyran que l'on a le droit d'abattre comme chrétien se présente. De nouveau, Jéhu. Moi, je n'arrive pas à condamner, franchement, je vous dis mon sentiment, l'action clandestine de Dietrich Bonhoeffer, qui a lutté pour essayer d'abattre le pouvoir de Hitler pendant la guerre. Il est entré, ce pasteur, qui finalement est mort en martyr, tué par les SS, quelques jours avant l'effondrement complet du Reich hitlérien. Ce pasteur s'est voué à l'action clandestine. Il était lié à ceux qui ont préparé l'attentat contre Hitler, qui malheureusement a échoué. Certains chrétiens évangéliques le condamneraient peut-être pour cette action. Moi, je n'y arrive pas. Je pense que le pouvoir nazi avait atteint un tel degré de démonisation, d'ailleurs littéralement, hein, je pense qu'il y a eu pacte avec les démons, que le livre de Louis Powels autrefois, Le Matin des Magiciens, a montré que les dirigeants nazis trafiquaient dans l'occultisme. Vraiment, ils se sont livrés à des pouvoirs démoniaques. Lorsqu'il y a une telle démonisation du pouvoir, je pense que au moins certains chrétiens peuvent avoir le droit. Mais vous voyez la complexité de cette question. Par la grâce de Dieu, nous n'en sommes pas là dans notre pays. Et nous pouvons donc souligner qu'une forme qui n'est pas à négliger ou mépriser de procurer la paix, c'est de soutenir les institutions qui répriment le mal. Et puis la troisième façon alors, c'est en nous engageant dans les entreprises de médiation ou réconciliation. Œuvrer pour la paix implique un engagement actif. C'est ce que l'expression même employée par le Seigneur Jésus suggère. Il s'agit de réconcilier ou de prévenir quand le conflit menace, quand il est tout proche, d'agir pour que ceux qui pourraient venir aux prises les uns avec les autres, et en principe le chrétien ne devrait pas en être, recouvrent une relation plus pacifique entre eux. Et cela vaut que les relations concernées soient interpersonnelles, les guerres entre individus, sociales, internationales, ecclésiales, dans l'Église et entre les Églises aussi, parce qu'il y a aussi des guerres. Les chrétiens qui tirent leur identité de la réconciliation opérée par le Christ, qui a fait la paix par le sang de sa croix, devraient être les mieux placés au monde pour œuvrer en tant que médiateur et réconciliateur. Et certains le font remarquablement. Vous savez que le président Jimmy Carter, qui est un chrétien évangélique baptiste, né de nouveau, après le temps de sa présidence, qui n'a pas été un temps très réussi du point de vue de la politique humaine, se consacre à des entreprises de médiation de par le monde, et là, il suscite beaucoup de respect, et il a obtenu dans un assez grand nombre d'endroits de très très beaux résultats comme médiateur. Évidemment, son prestige d'ancien président des États-Unis le sert, mais il le fait jouer d'une façon que je crois très très profondément conforme à la vocation chrétienne. Je signale que je sais que c'est dans cette voie que s'engage Madame Georgina Dufoy, l'ancien ministre, qui est aussi une sœur en Christ, et qui va travailler avec un organisme, elle l'a fait connaître récemment, de médiation dans les conflits intercommunautés en particulier. Et je signale, là c'est le petit scoop, que c'est Madame Georgina Dufoy qui nous parlera sur le sujet de cette réconciliation au centre évangélique à Lognes au mois de novembre prochain. Je peux déjà vous y inviter. Donc certains donnent un bon témoignage dans ce domaine, et je crois que nous sommes invités, chacun là où Dieu nous a placés, avec les moyens qu'il nous donne, à agir dans ce sens. Et là, je ferai alors diverses remarques. D'abord, les bonnes intentions ne suffisent pas. Et parfois, les bonnes intentions sans le savoir-faire font que on reçoit des coups de bâton qu'on aurait pu éviter. Il y a des retours de flamme, si vous voulez, si on essaye de jouer le médiateur, le réconciliateur. C'est déjà ce qui est arrivé à Moïse. Vous vous rappelez quand il a essayé de réconcilier les deux Israélites qu'il a vus se battre. Tout de suite, il s'est fait vertement reprendre et il a pris peur parce qu'il s'est rendu compte que le meurtre qu'il avait commis la veille de l'Égyptien qui maltraitait un Israélite devait être connu. Alors il a filé au désert, comme vous vous rappelez. Mais il avait voulu réconcilier, il avait voulu être artisan de paix, mais manifestement, il n'a pas très bien su s'y prendre lors de ce premier épisode. Même quand on sait bien s'y prendre, d'ailleurs, il y a parfois des souffrances auxquelles il faut s'attendre si l'on cherche à être un ouvrier de paix. C'est ce que Calvin, dans son commentaire de la septième béatitude, souligne. Je pense qu'il y a un argument dans ce sens, dans le fait que la huitième suit tout de suite, la huitième, où Jésus dit « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice ». Ça va en quelque sorte ensemble. Mais, outre donc cette nécessité de se préparer, parfois, à se faire éclabousser durement par le conflit, il y a un savoir-faire, un art, qu'il est utile d'apprendre. Et je vous signale un très beau texte de M. Michel Rocard à ce propos. Lors du 400e anniversaire de l'Édit de Nantes, il a écrit un texte inspiré par son étude de l'Édit de Nantes, où Henri IV a fait œuvre d'artisan de paix, et il l'a intitulé « L'art de la paix ». Et lui-même a essayé d'appliquer les mêmes principes avec un certain succès, je crois qu'on peut le dire, en Nouvelle-Calédonie. Ramenant la paix, en tout cas pour un certain nombre d'années, là où les conflits étaient devenus extrêmement aigus. Ce texte de Michel Rocard est un texte vraiment très intéressant à lire et je crois utile. Il souligne divers points, je vais vous en communiquer quelques-uns, mais il y a le fait d'accepter de prendre du temps. Il n'y a pas de négociation dans des cas de conflit qui puisse réussir comme ça. Il faut prendre du temps. Il faut donner du temps au temps, comme disait un autre encore. De même que Dieu a pourvu dans notre organisme physique à des mécanismes de cicatrisation qui font que des blessures graves finissent par se guérir avec le temps. Dans les relations humaines, dans la vie affective, il y a aussi un rôle qui peut être positif du temps. Bon, comme dans la vie physique, parfois le temps ne fait que laisser couver le mal, et même le mal faire abcès. Donc le temps n'est pas toujours en lui-même un agent positif, mais il l'est souvent, et la précipitation, elle, œuvre généralement contre la paix. Il y a un principe qui s'applique presque dans tous les droits humains, le principe de la prescription. Au bout d'un certain temps, les personnes ne sont plus les mêmes. On ne peut pas se rappeler tous les torts qu'on a subis après 50 ans, 100 ans, 200 ans, une famille, parce qu'alors là, on n'en sort pas. Si on veut que la paix se restaure sous les formes imparfaites qui sont possibles dans ce monde, il faut accepter quelque chose de ce principe. Il faut aussi de l'information. Michel Rocard souligne très fort ce point. Il faut absolument que l'on puisse connaître vraiment ce qu'il en est de l'autre, de ses motifs, de la façon dont il perçoit les choses, de ce qui est vraiment pour lui de première importance et ce qui ne l'est pas. Et l'information, que la vérité soit dite, sont des choses qui sont de première importance dans l'œuvre de la paix. Puis on peut encore noter ceci. Dans tous les conflits, dans toutes les guerres, il y a un noyau. Il y a un conflit d'intérêts, en prenant le mot intérêt au sens large, pas seulement matériel ou financier, d'intérêts vitaux qui sont souvent cristallisés dans des symboles. Et puis, en plus, il y a la passion qui gonfle toute l'agressivité mauvaise, qui vient du souvenir des blessures, qui vient du ressentiment, qui vient des peurs. Très souvent, ce sont les peurs qui font que les conflits durent. On a toujours peur de la réaction de l'autre. Il y a les malentendus avec les images déformées. Alors, en général, pour être artisan de paix, il faut essayer de désamorcer toutes ces bombes émotionnelles qui accompagnent le conflit d'intérêts fondamental. Alors, ce n'est pas facile. Je crois qu'il faut user d'un langage aussi mesuré que possible, un langage faisant des concessions, mais bien sûr, il ne faut pas sortir de la vérité, mais il ne faut pas dire toute la vérité à tout moment. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Et il faut souligner, par rapport à la mémoire blessée, le temps qui a passé, que tout est complexe, qu'il y a eu des choses des deux côtés. C'est ce qu'on appelle assez souvent la guérison de la mémoire. Un autre principe très important pour atténuer toute cette passion qui accompagne, c'est de laisser chacun se déclarer soi-même. Ce qui est ruineux, et on le voit dans les conflits de type interpersonnel, c'est que chacun prétend décrire l'autre et définir l'autre et dire les motifs de l'autre. Alors l'autre ne se reconnaît pas, réagit. Et une très bonne discipline, c'est d'essayer de dire, bon, moi je perçois ça, voilà ce que j'éprouve, mais en ce qui concerne ce que tu prétends, tu veux, je te laisse parler. Que l'autre dise comment il se voit et se déclare, en essayant d'éloigner autant que possible un langage d'accusation. Et puis, alors, il faut restaurer un minimum de confiance. Et c'est souvent le rôle du médiateur. Quand on a, dans deux camps, lorsque ce sont des conflits de groupe, des personnalités à la fois respectées et modérées, alors il faut essayer de faire jouer ces personnalités des deux côtés. Mais quand il n'y en a pas, alors c'est souvent le médiateur. Le médiateur qui est suffisamment respecté de part et d'autre, qui a la confiance des uns et des autres, et qui fit jouer ce crédit de confiance pour que ceux qui étaient complètement opposés les uns aux autres puissent quand même la communiquer. Alors il doit bien être entendu que c'est un catalyseur. En chimie, un agent catalyseur favorise la réaction chimique, mais il n'y joue pas lui-même un rôle, il n'est pas dans la formule de la réaction chimique. Le médiateur ne doit pas résoudre le problème à la place de ceux qui étaient en guerre. Ça ne marche pas. Il doit être là pour aider ceux qui étaient adversaires à faire la paix. Et bien sûr, pour cela, il faut qu'il y ait un désir de réconciliation. Et si le médiateur sait faire briller, en quelque sorte, la beauté de la paix, marquer qu'il est possible de l'atteindre, il peut faire lever un désir de réconciliation de part et d'autre. Le médiateur peut aussi, dans certains cas, payer un certain prix matériel pour favoriser la réconciliation quand il y a des dommages et des compensations importantes. C'est ce que fait l'ONU dans pas mal de conflits, et des millions de dollars, hein, mais c'est nécessaire pour l'œuvre de la paix. La réussite n'a rien d'automatique. De très belles entreprises de médiation échouent, c'est vrai. Dans ce monde, il nous faut être préparés à ce risque d'échec. Mais le pire non plus n'est pas sûr. Il y a aussi de belles réussites. Et je pense que dans toutes les sortes de conflits où nous pouvons être engagés et appelés à être artisans de paix, nous pourrons voir germer la semence de la paix si elle est arrosée de prières, dans la mesure où elle sera consolidée par le témoignage rendu à l'évangile de paix. Notre médiateur, réconciliateur, a payé lui-même toute la compensation. Et il nous a, par son esprit, mis au cœur le désir de la paix et de la réconciliation. Alors nous marchons sur ses traces. Voilà ce que j'avais à vous communiquer sous forme d'exposé, mais maintenant nous avons quelques minutes pour échanger entre nous. Oui, Madame Berger. Oui. Je l'ai mentionné, mais je l'ai mentionné très brièvement. Effectivement, le pardon joue un rôle clé, et il me semble que je peux dire trois choses principales à propos de ce pardon. D'abord, que nous sommes appelés en tant que chrétiens, et nous pouvons rendre ce témoignage aux autres pour essayer de les entraîner aussi, à être prêts à pardonner, à ne pas garder un grief et le retourner, le ressasser, prêts à pardonner. Je crois pour ma part, c'est le deuxième point, que l'événement du pardon requiert la demande de pardon. L'événement du pardon, c'est pas seulement que l'un est prêt à pardonner, c'est que vraiment il y ait réconciliation. Et pour ça, il faut qu'il y ait une demande, et c'est le modèle du Seigneur. Le Seigneur nous pardonne quand nous demandons pardon. La clause de la demande du pardon n'est pas toujours exprimée dans l'Écriture, mais elle l'est plusieurs fois, et je pense que c'est une fausse spiritualité de ceux qui disent « Oh, mais il faut être prêt à pardonner bien plus, même si l'autre ne demande pas pardon. » Il faut être prêt à pardonner, mais on ne peut pas pardonner, parce que c'est un événement entre les deux, lorsqu'il n'a pas demandé pardon. Et alors ça me conduit au troisième point, qui souvent, en pratique, là je pense aux conflits interpersonnels et aux conflits dans les églises, tout spécialement, c'est ceux que je connais quand même un peu le mieux. Le problème le plus aigu, c'est que il y a des faits que les uns estiment des faits de type pécheur, avec des torts, et donc ils estiment que c'est une affaire de pardon, alors que les autres disent « mais pas du tout, je ne vous ai pas fait de tort, ou j'avais pas l'intention du tout de que cette parole vous blesse et tout, elle voulait pas du tout dire ce que vous avez cru, donc il n'y a pas lieu de demander pardon, puisque je ne l'ai pas dit du tout dans l'intention que vous avez pensé. » Ça, c'est un problème pratique très très considérable. Alors, quelle solution? Il me semble qu'une première solution, c'est, disons, on ne trouvera pas de solution si on ne se parle pas. C'est, je pense, la première chose à dire. Il faut essayer de s'expliquer. Il faut prendre du temps, là aussi, pour débrouiller la situation. Et parfois, ce n'est pas la chose qui est considérée comme anodine par l'un et que l'autre brandit comme un tort qui lui a été fait qui est vraiment le problème. Elle cache autre chose. Et si on parle, on va peut-être découvrir cette autre chose. Donc, se parler, prendre du temps. Ensuite, je pense qu'il faut appeler celui qui estime avoir subi un tort et qui est prêt à pardonner, mais qui dit « mais j'attends quand même que l'autre demande pardon, qu'il reconnaisse que c'est un tort ». Je crois qu'il faut l'appeler à une souplesse maximale dans ce que j'appelle l'indulgence entre frères et sœurs. Là, je pense donc d'abord à la situation dans une église. Pour moi, effectivement, c'est un tort, mais bon, je me force un peu, j'accepte que pour lui ça n'en soit pas. Et je suis prêt alors à passer par-dessus et à le rencontrer comme il se voit, et à renouer une véritable relation avec lui à ce propos. Et puis alors, je pense que ça, c'est l'enseignement de Jésus le plus évidemment. Dès qu'il est question de pardon que nous avons à accorder aux autres, nous rappeler que nous sommes d'abord des gens qui ont eu énormément à se faire pardonner de lui, Jésus, de lui le Père Céleste, par Jésus. Ça, c'est la portée de la parabole du débiteur impitoyable. Son maître, le roi, lui remet une dette qu'il est incapable de payer, qui correspond à des milliards de milliards, c'est une somme faramineuse. Et puis après ça, il y a un de ses compagnons qui lui doit quelque chose comme 2000 francs, et il le saisit à la gorge, tu me rendras tout. C'est ça qui est intolérable. Lorsque nous avons des questions de pardon à nous donner mutuellement, toujours nous rappeler que nous ne sommes rien d'autre que des pécheurs qui avions une dette infinie et qui ne vivons que du pardon qui nous est accordé par le Seigneur. Voilà. Oui, oui. L'acte, j'ai pas bien entendu. Oui, oui, Martin Luther King. Alors Martin Luther King, qui était un pasteur baptiste, hein, vous le savez, bon, franchement, je crois qu'il faut le dire, il n'était pas 100% évangélique au sens que nous donnons au terme. Ne le récupérons pas, si vous voulez. Martin Luther King a été une grande figure du combat pour la reconnaissance des droits civiques pour les Noirs des États-Unis, et il a choisi une méthode non violente pour le faire. Et il a payé de sa vie ce combat, comme vous savez, il a été assassiné. Je crois qu'on ne peut pas marchander son admiration pour cet homme, qui était un prédicateur chaleureux, éloquent, qui a eu ses faiblesses, c'est sûr, mais je crois que nous pouvons saluer un homme qui a rendu témoignage pour la vérité centrale à l'évangile du Seigneur Jésus, et qui l'a fait au nom de l'évangile du Seigneur Jésus, qu'il est admirable, qu'il ait réussi à conduire une communauté nombreuse et qui avait subi beaucoup d'injustices dans des voies non violentes, par opposition aux black Muslims, aux musulmans noirs et à des mouvements qui, dans la communauté noire aux États-Unis, étaient prêts à déclencher la guerre la plus barbare. Martin Luther King, par le rayonnement de sa spiritualité, a permis que ce soit le moyen non violent qui obtienne les résultats, car il a obtenu effectivement des résultats. Alors le moyen non-violence, c'est pas une recette à tout coup, c'est pas, c'est dans une situation historique donnée que cela peut être efficace, parce qu'elle permet de jouer sur la conscience des oppresseurs eux-mêmes, car ils ont toujours une conscience aussi, ils ont été créés en image de Dieu et ne peuvent pas ne pas ressentir quelque chose quand ils commettent l'injustice. Et dans une société où l'enseignement biblique tient une grande place, comme la société des États-Unis, le moyen non violent qu'a choisi Martin Luther King a été efficace. Et il a obtenu, non pas une restauration, parce qu'il n'avait jamais eu, une émancipation, un redressement des torts par rapport à la communauté noire, sans que ce soit complètement achevé, bien sûr, mais du point de vue des droits politiques fondamentaux, oui. Donc, moi, je vois pour ma part cela, pour Martin Luther King, un bel exemple d'ouvrier de paix, malgré certains points, je ne veux pas donc le récupérer entièrement pour notre forme de baptisme, malgré certains points qu'on pourrait juger négatifs, surtout dans sa vie privée. Hein. Mais, cela dit, reconnaissant que tous nos frères évangéliques n'ont pas eu la même attitude. Hein. On peut être singulièrement aveuglé quand ces intérêts matériels principaux et sociaux principaux sont en jeu. J'ai été à Birmingham, Alabama, parce que j'avais été là dans une université baptiste donner quelques cours il y a 2 ans, 3 ans. Et c'est la ville où Martin Luther King a commencé. Et les baptistes qui sont là-bas, l'énorme majorité, hein, c'est toute la bonne société qui est baptiste. Les catholiques font figure d'une petite minorité quasiment méprisée. Ces baptistes n'ont pas été tous du côté de Martin Luther King. Et ils sont encore aujourd'hui un peu divisés à ce propos. Et je pense que ce n'est pas un défaut de sincérité simplement, mais justement nous sommes les jouets de nos propres sentiments et lorsque nous intéressons en jeu, nous pouvons déformer la situation d'une manière étonnante. Bon voilà, sur Martin Luther King, encore une chose, la très belle formule, la force d'aimer. Un de ses livres, un livre de prédication, s'intitule « La force d'aimer ». Je pense que c'est une très belle définition du rôle du Saint-Esprit que de nous donner la force d'aimer. Oui, monsieur. Et puis, monsieur Sidamon. Oui, alors c'est dans la première épître aux Corinthiens, donc l'apôtre Paul s'indigne de ce que les Corinthiens qui se disputent traînent leurs disputes devant le juge païen. Et il dit, vous n'êtes pas capable de juger vous-même entre vous. Les moindres d'entre les frères devraient être capables de régler cette question. Alors, est-ce que ça équivaut à une interdiction qui vaudrait pour tous les chrétiens dans tous les temps de recourir aux tribunaux civils? Personnellement, je ne le crois pas. Mais certains chrétiens l'ont cru, hein. Mais personnellement, je ne le crois pas. J'ai été convaincu, je n'ai pas le temps de développer maintenant, par le dernier chapitre de l'Institution chrétienne de Jean Calvin, qui traite précisément de ce point. Et Calvin, qui avait fait des études de droit, plaide que ce texte et quelques autres passages ne veulent pas dire que les chrétiens ne devraient pas recourir aux magistrats. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est pas un article de code, n'y allez pas, mais devant la situation de Corinthe, il dit, c'est vraiment pas admissible dans cette communauté. Et c'est vrai que entre nous, s'il y avait des procès devant le tribunal, moi, ça me ferait mal au cœur. Je dirais non, quand même. N'est-ce pas? Je crois que c'est une réaction normale. Mais c'est pas comme s'il y avait un article de code. Aucun chrétien n'aura jamais le droit de recourir à un tribunal. Monsieur Sidamon? Alors, cela est dit, des doux ou des débonnaires, le mot que Jésus a repris pour lui-même, je crois que cela veut dire que le royaume nous appartient. C'est la même chose que le royaume des cieux qui sera établi sur la nouvelle terre. J'attends une nouvelle terre où la justice habitera, et avec la justice, donc la paix. Et nous en serons, avec le Seigneur, des rois et des reines en association avec lui, car nous participons à sa royauté. À la résurrection, oui. Oui, c'est ce que je comprends. Pratiquement toutes ces béatitudes sont tournées vers la fin de l'histoire, le moment où le voile se lèvera, où le Seigneur paraîtra. C'est à ce moment-là que toutes les promesses associées aux béatitudes se réaliseront. Voilà, l'heure est arrivée. Je pense que si vous avez des sujets sur lesquels vous souhaitez que porte les études, vous pouvez toujours m'en parler. Certains le font, M. Sidamon surtout. Je pense qu'en juin, nous pourrions, Dieu voulant, parler du sabbat et de la relation du chrétien avec le sabbat.